Vous écoutez, on lit pour vous.
Qu'a fait la SAC? Des bouteilles des États-Unis? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 17 janvier 2026 dans La Presse. En mars 2025, la Société des alcools du Québec a retiré tous les produits américains de ses rayons à la demande du gouvernement québécois qui répliquait à l'imposition de droits de douane par l'administration Trump. Comme il n'y avait pas de remise en vente imminente, la SAC a annoncé en août 2025 qu'elle allait se départir des produits plus sensibles ou qui affichaient une date de péremption. Des organismes de partout au Québec ont pu bénéficier de cette situation exceptionnelle. Au total, 3763 caisses d'alcool américain ont été distribuées à 183 organismes, apprend-on dans une liste obtenue par La Presse à la suite d'une demande d'accès à l'information. Dans sa réponse, l'avocat de la Société d'État, Maître Daniel Colette, écrit toutefois que la SAC n'a pas de document final qui fournit un portrait complet du nom exact des produits remis et leur quantité. On ne peut donc pas estimer la valeur totale des dons. Le document permet toutefois de voir que de nombreuses fondations, plusieurs liées à la santé ou à l'insécurité alimentaire, ont pu récupérer des produits dont une partie a assurément servi pour des événements ou des collectes de fonds. Beaucoup de centres communautaires ont fait des demandes et reçu de l'alcool, ainsi que des événements et organismes culturels comme le Carnaval de Québec, le Musée d'art contemporain de Montréal, l'OSM, le TNM et certains petits événements qui se trouvent en régions plus éloignées. Quelques OBNL ont eu la main plus heureuse. Les fondations de l'hôpital Charles-Lemoyne et de l'hôpital du Sacré-Cœur ont reçu respectivement 134 caisses et 77 caisses. Produits à durée de vie limitée. La SAC ne révèle pas précisément qui a reçu quoi. Maître Colette précise toutefois dans sa réponse que les vignées et les produits à base de crème font partie des produits délestés. Leur durée de vie est moins longue qu'un pinot noir de la vallée de Sonoma, par exemple. Des bouteilles de vin américain ont été offertes, mais ce sont des vins qui ne sont pas conçus pour une garde prolongée et dont la conservation peut notamment altérer le goût, rendant ces produits non commercialisables, précise l'avocat. Le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu a reçu 67 caisses. Il y avait du saké, de la tequila et du vin, détaille le directeur général de l'organisme, Ando Andrianadi. Une partie de l'alcool a été servie à la soirée de reconnaissance des bénévoles le mois dernier. C'était un très beau cadeau de Noël, dit le directeur, qui ne s'attendait pas à recevoir cette quantité. Les bénévoles ont donc pu trinquer au Syrah et au Chardonnay californien. Le groupe a reçu des bouteilles du très populaire vin Cupcake. Il en reste amplement pour les événements à venir cette année. En plus des fondations et groupes communautaires, on ne sera pas surpris de trouver parmi les bénéficiaires des centres de formation en sommellerie et des écoles hôtelières comme l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ, qui a récupéré 22 caisses d'alcool. La SAC précise qu'aucun particulier n'a reçu des bouteilles dans le cadre de cette opération et qu'aucun produit n'a été vendu. Cette initiative a pris fin le 31 décembre 2025 et aucune autre n'est en cours pour le délestage d'alcool américain. C'était « Qu'a fait la SAC des bouteilles des États-Unis? » Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 17 janvier 2026 dans La Presse.
Pour que le jeu reste vraiment un jeu. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 octobre 2025 dans La Presse. Laisseriez-vous votre enfant de 7 ans jouer à un jeu mobile figurant sur la liste approuvée par le personnel enseignant de Google Play pendant que vous préparez le souper? J'avoue personnellement que je ne me serais méfié de rien avant de prendre connaissance du rapport alarmant rendu public mercredi le 22 octobre 2025 par une équipe de recherche de l'UQAM, de McGill et de l'Université d'Ottawa. Les chercheurs dénoncent les dérives des jeux mobiles destinés aux enfants de moins de 13 ans et l'absence d'encadrement de l'industrie les rendant possibles. En analysant 139 politiques de confidentialité de jeux mobiles dits pour enfants, vous savez, ce truc auquel on consent trop souvent sans prendre le temps de le lire, les chercheurs en arrivent à un constat inquiétant. Aucune de ces politiques de confidentialité ne respecte pleinement les lois québécoises, canadiennes et américaines en matière de protection des données des enfants. Et même pour des parents scrupuleux qui prendraient la peine de tout lire attentivement avant d'autoriser leur enfant à télécharger un jeu mobile sur son téléphone ou sa tablette, il peut être difficile de donner un consentement éclairé à moins d'avoir un doctorat sur le sujet. Ce que met en lumière l'étude, c'est qu'il y a un réel problème dans la classification des jeux, m'explique Maude Bonenfant, titulaire de la chaire de recherche du Canada en jeux, technologie et société. D'abord, parce que l'on est ici devant une industrie qui s'autorégule et que, dans un tel cas, l'intérêt commercial passe trop souvent avant les droits des enfants. Contrairement aux films, les jeux vidéo ne font pas l'objet d'une classification indépendante. En Amérique du Nord, l'Entertainment Software Rating Board, ESRB, qui est issu du lobby de l'industrie du jeu vidéo, est responsable d'attribuer des cotes aux différents jeux. En 2018, l'ESRB a aboli la cote « Petite enfance », 3 ans et plus, très peu utilisée, qui était la plus restrictive et qui protégeait la vie privée des enfants. Depuis, les enfants, y compris les tout-petits, sont inclus dans la cote « tout public », sans aucune garantie que le jeu est vraiment adapté à leur âge ni que leurs données personnelles sont protégées. Autre problème observé par les chercheurs. Souvent, le classement sur Google Play Store ou l'App Store indique une chose alors que la politique de confidentialité en dit une autre. Ainsi, même si les chercheurs n'ont examiné que des jeux classés par l'industrie comme étant adaptés aux enfants de moins de 13 ans, un grand nombre de leurs politiques de confidentialité indiquaient un âge minimal de 13 ans, voire de 18 ans. Les chercheurs y voient une stratégie malveillante permettant d'outrepasser les droits des enfants pour faire la collecte de données personnelles. Une demande d'autorisation d'action collective contre l'industrie du jeu mobile vient d'ailleurs d'être déposée à Québec pour des allégations de manquement grave à la protection de la vie privée des enfants. Les chercheurs ont aussi trouvé, en se penchant sur le programme de Google approuvé par le personnel enseignant, Teacher Approved, des jeux destinés aux enfants douteux à plus d'un égard. Le parent qui voit ça se dit « C'est parfait, cela a été vérifié. » Mais on a vu dans ces jeux de la publicité, des microtransactions, des mécaniques de gambling, dit Maud Bonenfant, qui est aussi professeure titulaire au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Or, comme l'avait démontré une autre enquête menée par la chercheuse en 2023, la gambilification des jeux mobiles gratuits crée de véritables casinos pour enfants aux effets nocifs, devant lesquels Québec tarde à agir. Le jeu doit rester un jeu, dit une publicité de l'Auto-Québec destinée aux adultes. Mais pendant ce temps, on accepte que des enfants soient exposés à des mécaniques de gambling et à de la publicité sans sourciller. Pour tenter d'y voir clair, le parent consciencieux peut bien tenter de lire les conditions d'utilisation et les politiques de vie privée, mais bonne chance à celui qui espère y comprendre quelque chose. En analysant les politiques de confidentialité, les chercheurs, qui incluaient des juristes, ont constaté qu'elles étaient généralement opaques et trop souvent incompréhensibles, en plus de contenir des contradictions et des clauses à la légalité très douteuses. Si la vie privée de l'enfant n'est pas respectée, si le parent n'a pas les moyens de trouver les informations pour faire un choix éclairé, c'est là que l'enfant est exposé. Il n'est pas protégé du tout, souligne Maud Bonenfant. Pour bien illustrer le problème, elle pose cette question. Accepteriez-vous qu'une quinzaine d'adultes se rassemblent autour de votre enfant qui joue afin de l'observer dans ses moindres gestes, tenter de l'influencer dans le choix de ses jouets, lui dicter ce qu'il a droit de faire ou pas, et lui faire du chantage en lui disant « Si tu veux continuer à jouer, tu dois d'abord regarder cette pub. » Bien sûr que non. On ne voudrait pas de ces intrus manipulateurs dans notre salon, mais présentement, sur les appareils mobiles, c'est ce qui se passe, ajoute Maud Bonenfant. Énormément de personnes ont accès au profil de l'enfant et peuvent utiliser ces données pour le manipuler autant dans sa consommation médiatique que dans les jeux et éventuellement dans ses dépenses. Devant tout ça, des parents se diront que le plus simple est de bannir complètement tous les jeux mobiles de la vie de leurs enfants. Alors que l'on commence à prendre conscience de tous les effets négatifs des écrans, la tentation du tout ou rien est grande. Mais ce n'est pas la voie à suivre, estime Maud Bonenfant. Elle-même, mère de trois enfants, jouant aux jeux vidéo tous les jours et joueuse passionnée, étudiant le sujet depuis 20 ans, la professeure rappelle que tout interdire serait se priver des effets positifs des jeux vidéo dans la vie des enfants. Si elle ne laisse évidemment aucun des jeux mis en cause dans cette étude rentrer dans son salon, elle voudrait plutôt que tous les parents, et pas juste ceux qui ont un doctorat sur le sujet, puissent avoir les outils nécessaires pour faire des choix éclairés. L'une des solutions à mettre en place serait la création d'une régie du numérique, croit Maud Bonenfant, qui co-signe une lettre ouverte à ce sujet dans la section Dialogue 3. De la même façon qu'il existe une régie du cinéma pour catégoriser les films, il s'agirait d'une instance indépendante chargée de bien encadrer les produits numériques, de les catégoriser correctement et de veiller à ce que les enfants puissent jouer dans un environnement numérique qui soit sain et respectueux. Ça tombe bien. La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes a aussi fait une recommandation qui allait dans le même sens, afin de faire le ménage dans la classification des jeux vidéo. Il suffirait donc de s'y mettre pour que le jeu reste vraiment un jeu. C'était, pour que le jeu reste vraiment un jeu, un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 octobre 2025 dans La Presse.
« Comment ça marche, le déneigement et le déglaçage à Montréal? Un texte de Marco Fortier, paru le 30 décembre 2025 dans Le Devoir. Chaque hiver, ça recommence. Les Montréalais se lamentent de l'état déplorable des trottoirs, trop glacés ou enneigés, et se demandent pourquoi les pistes cyclables sont toujours déneigées en premier. L'épisode de pluie verglaçante de lundi a donné lieu au concert habituel de critiques sur les réseaux sociaux. Faisons le point sur les opérations complexes d'entretien hivernal des trottoirs et des chaussées. Pourquoi certains trottoirs sont-ils glacés un lundi matin? La pluie verglaçante a commencé à tomber durant la nuit. La ville a déployé 1000 véhicules et autant de personnel pour répandre du sel et des abrasifs. Mais la tâche est immense. Le réseau de trottoirs, de pistes cyclables et de chaussées montréalais s'étend sur 11 000 kilomètres, dont plus de 6 000 kilomètres de trottoirs. Les responsables de l'entretien des chaussées ne peuvent pas tout faire en même temps et la ville demande donc aux Montréalais d'être patients. Une opération de chargement de la neige est en cours depuis samedi en raison des précipitations des jours précédents. La ville donne-t-elle la priorité au déglaçage des trottoirs et chaussées lundi? Oui, la ville ajuste ses opérations en temps réel, a mis en pause le chargement de la neige et entreprend d'épandre de l'abrasif et du sel, confirme Gonzalo Nunez, relationniste à la ville de Montréal. La priorité est de s'assurer que les trottoirs et les chaussées sont sécuritaires, de maintenir ces espaces praticables. Mais il reste encore du travail à faire dans certains secteurs. Les équipes vont poursuivre les opérations d'épandage tant et aussi longtemps que l'ensemble du réseau n'aura pas été sécurisé adéquatement, précise-t-il. Comment détermine-t-on les trottoirs et chaussées à entretenir en priorité? La politique de déneigement de la ville de Montréal prévoit 3 niveaux de priorité pour toutes les chaussées, tant pour la ville-centre que pour les arrondissements. Les trottoirs et les pistes cyclables en bordure des chaussées ont la même priorité que la chaussée où ils se trouvent. Niveau 1. Le déblayage des grandes artères, des accès aux établissements de santé et aux écoles, des arrêts et des circuits d'autobus les plus achalandés et des voies réservées, le SRB P9 par exemple, ainsi que les rues commerciales d'envergure, la rue Sherbrooke, les boulevards Lacordaire et Henri Bourassa, etc. Niveau 2. Les rues collectrices, les autres circuits d'autobus et les rues commerciales locales, l'avenue Bernard, les rues de Cadillac et Villeray, etc. Niveau 3, les rues locales et les secteurs industriels, les rues de Normanville, Beausoleil, Rameau, etc. Qu'en est-il des pistes cyclables? Souvent, elles sont déblayées avant les trottoirs. Pourquoi? Les pistes cyclables sont généralement déneigées en même temps que les rues et les trottoirs. Le réseau cyclable hivernal est toutefois beaucoup plus limité que les rues et les trottoirs, même dans les arrondissements considérés comme les plus favorables au vélo. C'est la raison pour laquelle le déneigement des pistes cyclables nécessite beaucoup moins de temps que celui des trottoirs. Par exemple, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, il y a 62 km de pistes cyclables protégées à déneiger contre 400 km de trottoirs et 225 km de rues, ce qui explique que le déneigement des pistes cyclables est plus rapide. Elles sont également plus rapidement déneigées car elles comportent souvent moins d'obstacles. Il est rare d'y voir des bacs de compostage ou de recyclage ou même un carré d'arbres à contourner, par exemple. Même chose dans le plateau Mont-Royal, la Mecque du vélo montréalais, où les pistes cyclables occupent un espace pas mal moindre que celui réservé aux piétons et aux voitures. Avec seulement 23 km de pistes cyclables comparativement aux 136 km de rues et 264 km de trottoirs, leur déblaiement est plus rapide, explique le site web de l'arrondissement. Comment détermine-t-on les moments où déclencher des opérations d'épandage d'abrasifs, de déneigement ou de chargement de la neige? L'épandage de sel et de pierres concassées est enclenché dès que les rues, les pistes cyclables et les trottoirs sont glissants. Le déblayage de la neige a lieu à partir d'une accumulation de 2,5 cm. Le chargement de la neige est prévu à partir d'une accumulation de 10 cm à 15 cm. Ces opérations sont effectuées en continu jusqu'à ce que les rues et les trottoirs soient dégagés et sécuritaires. La quantité de précipitations, les conditions météo et les bris d'équipement peuvent ralentir le rythme des opérations, indique la ville. Compte tenu des conditions actuelles, nous recommandons aux gens de redoubler de prudence, de limiter leurs déplacements et de faire preuve de solidarité en aidant les personnes à mobilité réduite. En tout temps, les citoyens peuvent signaler une situation de risque par l'application mobile 311 Montréal, précise Gonzalo Nunez. C'était « Comment ça marche, le déneigement et le déglaçage à Montréal? » Un texte de Marco Fortier, paru le 30 décembre 2025 dans Le Devoir.
La gestion des chantiers de Montréal doit être améliorée. Un texte de Isabelle Dessureau et Yves Lalumière, publié le 11 décembre 2025 dans Le Devoir. Depuis quelques années, le même constat revient. Se déplacer à Montréal est devenu un parcours à obstacles. Entre les chantiers qui s'étirent, les détours imprévus et les voies constamment encombrées, l'absence de fluidité de la circulation est devenue un irritant majeur pour tout le monde, citoyens, travailleurs et visiteurs. Personne n'y échappe, piétons, cyclistes, automobilistes, tous voient leurs déplacements perturbés. Les nuisances causées par les problèmes de gestion des chantiers ne relèvent pas de la perception, elles sont documentées. Selon nos analyses, pas moins de 93% des artères du centre-ville ont été entravées au cours de l'année 2023 et 87% l'ont encore été en 2024, un niveau d'entrave exceptionnel et intolérable pour un secteur aussi névralgique de la métropole. Les cônes oranges sont devenus l'emblème involontaire de Montréal. Leur présence en nombre record n'évoque ni le progrès, ni l'investissement, ni de grands travaux transformateurs. Elle illustre plutôt les obstacles d'une grande ville où l'on peine à circuler et où, trop souvent, on tourne en rond. Ils incarnent aussi une gestion fragmentée par l'administration municipale, un système où l'absence de plans d'ensemble et d'outils numériques intégrés conduit aux mêmes scènes répétées, des rues ouvertes, refermées, puis rouvertes encore. Ce diagnostic, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal le font depuis la publication, en 2023, d'une vaste étude sur la gestion des chantiers intitulée « Blocage minimum ». Depuis, nous rendons disponible chaque année un outil de suivi, le baromètre obstacle minimum, afin de mesurer les progrès réalisés et l'intégration des solutions que nous proposons avec les experts et l'industrie. Or, la mise à jour 2025 le confirme. Nous sommes loin d'une amélioration perceptible. Avec ce baromètre, nous offrons à la Ville de Montréal et à la nouvelle administration un repère pour orienter leurs décisions et améliorer la gestion des chantiers. Les métropoles qui s'en sortent le mieux ne sont pas celles qui construisent le plus vite, mais celles qui planifient le mieux. Ailleurs, des métropoles comme Amsterdam, Paris ou New York montrent la voie en misant sur la planification intégrée, la coordination serrée et la discipline opérationnelle. La situation est telle qu'elle requiert désormais un véritable réflexe d'urgence. il devient impératif de mettre en place une cellule d'intervention pour l'hypercentre responsable de reprendre en main la coordination des chantiers afin de limiter les entraves inutiles et de remettre de l'ordre dans un système qui, aujourd'hui, échappe trop souvent à tout contrôle. Pourquoi Montréal ne pourrait-elle pas y arriver? Un constat s'impose toutefois. La technologie fera partie de la solution, mais la transformation de nos manières de faire sera tout aussi déterminante. L'intelligence artificielle et les jumeaux numériques ouvrent aujourd'hui une nouvelle ère pour la mobilité et la planification urbaine. Ces outils permettent de modéliser en temps réel l'état du réseau, de prévoir l'impact d'un chantier avant même le lancement de celui-ci, d'adapter les configurations routières selon les flux observés et d'éviter les doublons coûteux qui paralysent inutilement la vie de notre ville. Nous avons ici, à Montréal, toute l'expertise nécessaire pour rétablir la fluidité. Nos firmes d'ingénierie, nos entreprises technologiques et nos chercheurs maîtrisent déjà ces outils de pointe et les déploient ailleurs dans le monde. Il nous revient maintenant de mettre en valeur cette expertise locale et de l'intégrer pleinement à une gestion des chantiers plus modernes. En misant sur ces innovations, Montréal peut passer d'une ville qui subit ses chantiers à une ville qui les anticipe, les planifie et les adapte en temps réel. Autant de leviers qui permettent de mieux communiquer avec les citoyens et les entreprises. La mairesse Soraya Martinez-Ferrada a été élue sur la promesse d'écouter et d'agir. Elle a déjà exprimé son ambition d'améliorer la gestion des chantiers et la mobilité. C'est aussi un souhait des fonctionnaires d'être mieux outillés. Nous avons entendu cette promesse et nous lui tendons la main. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et nos partenaires seront au rendez-vous. Nous ne laisserons pas ce débat s'enliser. Nous proposons plutôt des analyses actualisées, des solutions concrètes, une compréhension fine du terrain ainsi que de meilleures pratiques sur la scène mondiale. Parce que les défis liés au chantier ne sont plus ponctuels, ils sont structurels. Le vrai défi n'est plus de comprendre, mais d'agir. Notre ambition est claire. Montréal mérite mieux que d'être caricaturée comme la capitale du cône orange. Une ville comme la nôtre devrait être reconnue mondialement pour son effervescence culturelle, son dynamisme entrepreneurial, son savoir et sa qualité de vie, et pas pour ses entraves. C'était « La gestion des chantiers de Montréal doit être améliorée », un texte de Isabelle Dessureau et Yves Lalumière, publié le 11 décembre 2025 dans Le Devoir.